Radio Kapi.
Le journal, présenté par Neula Luzitu Kabambi.
Le programme alimentaire mondial a perdu la totalité de ses stocks à Bukavu au sud Kivu et 70% de ceux de Goma au nord Kivu. Selon le PAM, ces réserves étaient destinées à nourrir 690 000 personnes le mois. Deux morts et un blessé, des inondations et des dégâts matériels, conséquence de la forte pluie orageuse qui s'est abattue ce matin sur la ville de Kinshasa. Dans ce journal, le constat de notre reporter Babel Mpongo-Massimango. Père Jean-Robert Limbaya, religieux de la Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur, est l'invité de ce journal. Le directeur du Centre d'encadrement des orphelins et des enfants en conflit avec la loi dans la ville de Kisangani va parler de son travail ainsi que de l'importance des visites et de l'assistance pour ses enfants. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Le programme alimentaire mondial dit avoir subi des pertes considérables lors des récents combats et pillages dans l'est de la RDC. Le PAM affirme avoir perdu la totalité de ses stocks à Bukavu, tandis qu'à Goma, elle a perdu 70% des vivres qui ont été détruits ou volés. Des réserves destinées à nourrir 690 000 personnes le mois, déclare le PAM. Sifa Maguru pour plus de détails.
Après une évaluation à la suite des pillages, le PAM indique qu'il dispose pour l'instant d'un stock de 18 000 tonnes de vivres répartis dans ses 11 pôles logistiques à travers le pays. Pour faire face à cette situation critique, certains bureaux ont procédé à une double distribution là où cela était possible, renseigne le PAM. Ce communiqué ajoute que le PAM a entamé la recherche des nouveaux entrepôts et en aurait déjà identifié un à Goma. Des efforts sont également en cours pour réparer les entrepôts endommagés lors des pillages. Les équipes du PAM redoublent d'efforts pour soutenir les populations les plus vulnérables et leur apporter une assistance. Par ailleurs, notez cette mise en garde du PAM aux populations contre la consommation abusive des suppléments nutritionnels destinés aux personnes en malnutrition sévère. Dans des messages partagés en quatre langues nationales, le PAM avertit la population que la consommation de ces suppléments par des sujets en bonne santé peut entraîner des effets secondaires graves.
Pendant ce temps, l'Union européenne affirme avoir initié depuis quelques jours un convoi humanitaire de 44 tonnes d'aide en faveur des victimes de la guerre de l'Est et de la RDC. Son représentant spécial pour la région des Grands Lacs a livré cette information au sortir d'un entretien avec la première ministre ici à Kinshasa. À travers ces échanges, Johan Borgstrom a réaffirmé son engagement à défendre les principes du droit international et à renforcer ses actions en faveur de la stabilité et de la paix en RDC. Plus des détails avec vous, Blaise Ndonga Lamayanda.
La rencontre entre la Première ministre et les représentants spéciaux de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs a porté principalement sur les renforcements du partenariat entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Johan Borgstrom a profité de cette occasion pour informer Judith Souminois des actions concrètes de soutien de son institution. Par exemple, a-t-il confirmé, un convoi est actuellement en route, financé et équipé par l'Union européenne, partant de Nairobi à destination de Goma avec 44 tonnes d'aide humanitaire pour les personnes déplacées et les populations vulnérables dues à la guerre. Ce diplomate européen a rappelé que garantir l'intégrité territoriale de la RDC constitue un impératif non seulement pour maintenir la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, mais également pour préserver l'ordre mondial basé sur le respect des frontières souveraines. Pour Johan Borgstrom, l'engagement de l'Union européenne à ses sens est inébranlable et que toute violation constitue une menace à laquelle la communauté internationale doit répondre avec fermeté et détermination.
Le coordonnateur humanitaire à RDC, quant à lui, dénonce des graves violations des droits humains et droits internationaux enregistrées récemment au nord Kivu et au sud Kivu, précisément dans les villes de Goma et Bukavu occupées par le M23. Bruno Lemarquis appelle toutes les parties à protéger les civils et à respecter leurs obligations en vertu du droit international. Ronéline Tibonera.
Dans un communiqué du 3 mars 2025, Bruno Le Marquis exprime sa profonde inquiétude face à la multiplicité des actes de violence ciblés contre les civils, les infrastructures médicales et éducatives et le personnel humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Ces actes constituent non seulement des atteintes graves aux droits humains fondamentaux, mais aussi des violations du droit international humanitaire. Ces communiqués des OCHA indiquent qu'entre le 1er et le 3 mars, plusieurs centres hospitaliers de Goma ont été pris pour cible et par des acteurs armés, marquant une nouvelle escalade de violence contre les structures médicales et les personnels de santé. Ce rapport également revient sur les explosions du 27 février 2025 lors d'une manifestation publique à Bukavu, au site Kivu, qui ont fait 13 morts et des dizaines de blessés parmi les civils. En outre, plusieurs autres rapports signalent une hausse inquiétante des cas d'enlèvement des civils, y compris aux abords d'écoles et structures de santé, dans certains territoires du Nord et du Sud Kivu, ajoute ses communiqués de presse. Bruno Le Marquis rappelle que toute attaque visant ces structures essentielles est une violation grave du droit international humanitaire et doit cesser, souligne-t-il.
Par ailleurs, le Canada a annoncé hier lundi une série de sanctions contre le Rwanda en réponse à son implication dans le conflit dans l'est de la RDC. À travers sa démarche, Ottawa entend dénoncer une violation flagrante de la souveraineté congolaise. Dans un communiqué conjoint, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, le ministre du Développement international, Hamed Hussein, et la ministre de la Promotion des Exportations, Marie, ont condamné dans les termes les plus fermes la progression du M23 qui a récemment pris le contrôle de plusieurs agglomérations dans l'est de la RDC. Dans la province de l'Ituri, toutes les écoles primaires et secondaires sont fermées depuis environ une semaine dans les localités lacustres. Les écoles de Fataki dans le territoire de Djougou, elles, totalisent un mois de fermeture. Les élèves et leurs parents, ainsi que les enseignants, ont fui les atrocités des groupes armés qui s'intensifient dans la zone. Ils plaident pour la restauration de l'autorité de l'État dans leurs entités pour sauver cette année scolaire qui pour eux devient hypothétique. Isaac Remoyope.
À Tchoumia et dans les camps de pêche de Nyamamba, Café, Mbougi, Jogbi, plus de 30 écoles ne sont pas opérationnelles, indiquent des sources locales. La majorité des élèves et leurs parents ont fui en Ouganda et d'autres se sont installés à Kasenyi, situé à 7 km. C'est suite aux affrontements depuis la semaine dernière entre les groupes armés Zaïre et les FARDC. Dans les groupes Madjaïba et Afata, qui est environ 90 km au nord de Bounia, environ 15 écoles sont fermées suite aux multiples attaques des Codeco qui ont fait séquender mourir environ 3 semaines. Plus de 3000 élèves de ces entités ont trouvé refuge vers Boulé, Lopa, Igabarir et Bounia. Plus d'espoir pour eux de regagner aussitôt dans leur village d'origine pour reprendre les chemins de l'école. C'est là à l'instar des milliers d'autres enfants en âge scolaire qui se sont installés dans les différents sites des déplacés disséminés dans la province. Un enseignant exprime son désarroi.
Les enfants sont allés de ramasser des vivres. Ils cherchent comment on peut les aider avec un petit rien. Avec les sécurités, nous voyons que l'année sera cotée dans leur milieu là-bas, l'année blanche. Là, il n'y a pas moyen de vivre. Au gouvernement qu'il puisse intervenir chez nous, c'est-à-dire on devait renforcer les militaires.
La province de l'Ituri compte à ces jours plus d'un million de déplacés composés essentiellement des enfants qui ne vont pas à l'école depuis 7 ans à cause de l'insécurité. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Parlons de l'ouest du pays avec ces chiffres. Plus de 1000 personnes, tous des civils, ont perdu la vie à la suite de violences causées par la milice Mobondo dans la zone opérationnelle Ngemba, notamment dans les provinces de Maïndombe, du Kwilu et du Kwango, ainsi que dans la commune rurale de Maluku à Kinshasa, sans oublier le territoire de Kimvula au Congo central. Ce bilan encore provisoire est livré par le porte-parole des opérations Ngemba de la 11e région militaire basée à Kikwit dans la province du Kwilu. Le capitaine Anthony Mwalushai indique également que les miliciens auteurs de ces exactions commettent ces méfaits partout où ils passent et n'hésitent pas à commettre même des viols. Il en appelle à l'intervention de la justice tant nationale qu'internationale. Le point avec Irène Mbomaluzolo.
Face à la presse, les porte-parole des opérations Ngemba rapportent que dans le cadre de ces opérations, l'armée a fait un constat malhéré, surtout sur l'axe Kwamutu-Bagata. Le capitaine Anthony Mwalushai dresse un bilan parcelle très lourd en termes de pertes en vie humaine occasionnées par la milice Mobondo.
Nous avons documenté tout ce que les insurgés Mobondo ont fait depuis l'année 2022 jusqu'à ces jours. Et nous avons enregistré plus de 1000 personnes qui sont mortes côté civil. sans compter les agents de l'ordre, que ce soit les civils ou quelques militaires tombés sur le champ de bataille.
Au-delà de ces chiffres macabres, les assaillants Mobondo s'illustrent aussi dans les actes de violation des droits de l'homme, surtout des violences faites à la femme. Le capitaine Anthony Mwalushai.
Nous avons un cas qui fait froid au dos, c'est le cas de nos deux jeunes dames qui ont été enlevées dans le village Komankiro. Ce qu'elles nous ont raconté, les femmes enlevées ont fait l'objet d'exploitation sexuelle par ces insurgés pendant plus de 2 mois.
Pour les porte-parole de la 11e région militaire du Grand Bandundu, ce qui se passe actuellement dans la zone opérationnelle Ngemba mérite l'attention de la justice nationale et internationale pour réparation. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Une pluie orageuse s'est abattue ce matin sur presque l'ensemble de la ville de Kinshasa. Ce soir, le bilan s'alourdit. On parle de 2 morts et 1 blessé. Des cas survenus dans les communes de Lemba et Barumbu. Par-ci par-là, on compte quelques dégâts, des murs écroulés, des toitures emportées par le vent, des arbres déracinés et des cas d'inondation aussi. Baba Mpongo Masimango nous en parle.
Côté humain, ce sont des écroulements de murs qui sont à la base des drames. 2 femmes sont mortes, une à Limbafar en face de l'église La Résurrection, une autre sur l'avenue Kasungo, quartier Chimanga à Barumbu. Dans cette commune, un jeune homme a lui été blessé dans les mêmes conditions sur l'avenue Lac Mouero, quartier Bichakuchaku. Certaines maisons ont perdu leur toiture dans plusieurs communes. C'est le cas chez cette dame.
La toiture, elle a quitté de chez moi jusqu'au 5e parcelle. C'est elle que je suis là, je suis dehors avec les enfants. Je ne sais pas où aller.
Des inondations sont enregistrées, notamment au quartier Monsousou dans la commune de Limité. Ici, la bourgmestre signale aussi un incendie qui s'est déclaré à la polyclinique Yanga pendant la pluie. Inondation également sur une partie de l'avenue Oyu à Kintambo et au niveau du pont Gunza sur Elengesa, pont qui continue de s'affaisser. Plusieurs bourgmestres affirment que les inondations sont quand même un peu limitées grâce aux travaux d'assainissement en cours. Comme à chaque forte pluie, le sable venant de Kisenso a envahi les localités Batende, Kinsako, Matete, entraînant des inondations. 2 arbres sont tombés sans faire des dégâts sur l'avenue Victoire à Kauka, à Kalamoud et au croisement des avenues Irebou et Kassavubu. Chute d'arbres également sur Colonel Monjiba en Galément en face du supermarché SK et de gravier sur l'avenue du tourisme. Par ailleurs, des nids de poules et certains chantiers routiers sont remplis d'eau, rendant la circulation difficile.
Dans le sud-est du pays, la Commission nationale des droits de l'homme, bureau de coordination du Lualaba, appelle la population au calme, à la tolérance et à privilégier le vivre ensemble. Cette institution d'appui à la démocratie l'a fait savoir au lendemain de la rencontre organisée samedi à Kolwezi par le président du Sénat avec les différentes couches de la population pour les mobiliser à l'unité nationale. Ce jour-là, à la suite de la prise de parole du président de la société civile du Lualaba, qui fustigeait un certain nombre de choses, il a été pris à partie par certains participants et depuis, ils se menacent mutuellement. D'autres détails avec Arthur Kaboulo, responsable de la CNDH dans le Lualaba. Il est au micro de Jean Gando.
La démarche du président du Sénat dans la province du Lualaba, en collaboration avec l'autorité provinciale, une démarche salvatrice, louable, parce que c'est une initiative qui va appeler tout le monde à la paix, à la cohésion et aussi à une mobilisation par rapport au contexte actuel que traverse notre pays. Lors de la prise de la parole du président du cadre des concertations dans ses assises, son intervention n'a pas arrangé une poche de l'assistance, ce qui a fini par les manques d'égard à son endroit, chose que nous déplorons. Et à ces jours, nous vivons des échanges dans les réseaux sociaux des uns des autres qui ont une nature à perturber l'ordre public, la cohésion sociale au niveau de la province. Nous appelons la société civile, les ONG et aussi la partie qui a attaqué le responsable du cadre de concertation à se focaliser plus sur la paix. Nous sommes dans un contexte où il faut que tout le monde mette sa main dans la pâte pour que la paix revienne. Il n'y a pas lieu ici de s'attaquer mutuellement. Alors nous appelons les uns et les autres à privilégier l'essence de la paix, la cohabitation, la tolérance.
Actualité internationale.
L'Égypte a présenté un plan de 53 milliards de dollars pour reconstruire Gaza sur 5 ans. plan axé sur les secours d'urgence, la reconstruction et le développement économique à long terme. Ce plan, qui sera discuté lors d'un sommet arabe extraordinaire au Caire, prévoit deux phases de reconstruction et propose la création d'un fonds supervisé au niveau international qui garantirait l'efficacité, la durabilité du financement ainsi que la transparence et la surveillance. Selon le projet, un comité d'administration de Gaza composé de technocrates indépendants et de personnalités non partisanes sera établi sous l'égide du gouvernement palestinien pour gérer le territoire pendant une période de transition de 6 mois. Cette mesure est décrite comme une étape vers la reprise totale du contrôle de Gaza par l'autorité palestinienne basée en Cisjordanie occupée. Les dirigeants arabes appellent à la tenue d'élections dans tous les territoires palestiniens d'ici un an si les conditions appropriées sont réunies. Le plan évoque également la possibilité d'une présence internationale dans les territoires palestiniens, notamment à travers une éventuelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU en faveur du déploiement des forces de maintien de la paix ou de protection à Gaza et en Cisjordanie occupée.
L'invité
de ce journal, c'est le père Jean-Robert Limbaya, directeur du Centre d'encadrement des orphelins et des enfants en conflit avec la loi. Ce centre, géré par la Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur, est situé au bloc Motumbe, quartier Plateau Boyoma, dans la commune de Makiso, à Kisangani. Dans un entretien avec Jacques Moukonkole, père Limbaya souligne l'importance des visites et de l'assistance pour ses enfants. Il partage également les défis rencontrés dans leur encadrement et appelle à la solidarité envers ces personnes vulnérables. Suivez.
Bonjour père.
Bonjour.
Père, quels sont vos sentiments en accueillant IMK dans vos installations?
Nous sommes contents. Contents d'abord pour nos enfants, parce qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent leur rendre visite, c'est un motif de joie. Mais aussi, psychologiquement, ça les aide à comprendre qu'ils ne sont pas rejetés par le monde. Et donc pour nous, c'est psychologiquement, c'est une bonne chose pour les enfants. Maintenant, nous, ils ne sont pas venus bredouilles, ils sont venus aussi avec un peu de vivre frais.
Qu'est-ce que cette assistance représente pour vous?
Ça nous épaule dans notre charge d'alimentation des enfants. Et donc, disons merci, sincèrement merci, parce que c'est une aide importante. Ces enfants grandissent avec la générosité des gens. Donc, chaque générosité compte pour nous. Prions le Seigneur afin qu'il leur rende sensible de tout ce qu'ils ont fait pour les enfants aujourd'hui.
Comment encadrez-vous ces enfants?
Les enfants, c'est pas facile. C'est des enfants. Il y a des adolescents et adolescentes. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. À cet âge, chacun présente un peu ses caprices selon son âge, selon sa réalité. Et avoir les deux sexes ensemble, c'est pas toujours évident. Mais nous les encadrons du point de vue de l'éducation scolaire. Tous les enfants vont à l'école. Ils sont logés ici chez nous. Ils mangent ici chez nous. Et même tous les soins, c'est ici chez nous, soins médicaux. Et donc, nous essayons de les aider, de les encadrer avec l'aide de la province. Nous sommes des prêtres du Sacré-Cœur. Notre province nous aide efficacement pour prendre soin de ses enfants. On a diminué un peu leur nombre. Ils sont 51 aujourd'hui.
Et pourquoi réduire leur nombre et où vont les autres?
On a diminué un peu leur nombre faute de moyens. Alors on a réduit le nombre pour pouvoir bien les encadrer, en tout cas encadrer ceux qui sont là. Alors chaque année, il y a des enfants qui sont réinsérés dans leur famille. Et donc le nombre diminue par ces fêtes-là. C'est-à-dire à chaque fois, quand l'enfant achève son parcours chez nous, à l'âge de 18 ans, on ne peut plus les garder ici. Tous ceux qui ont de famille essaient de les gagner leur famille. On les accompagne bien évidemment. On essaie de résoudre les conflits qui a occasionné le départ de l'enfant de la famille pendant que l'enfant est encore chez nous. Et au bout de son parcours ici, à la fin, on arrive à trouver une solution et l'enfant est réinséré dans sa famille sans problème.
Quel genre d'encadrement vous assurez à ces enfants?
Alors ici, principalement, tous les enfants doivent étudier. Donc un enfant qui n'étudie pas, vous avez vu même ceux qui ont 2 ans vont à Saint-Jean. Parce que c'est notre école aussi. Comme celui-ci, il va à Saint-Jean. Donc, tous ceux qui sont ici doivent impérativement aller à l'école parce que c'est d'abord leur droit. Et c'est un devoir pour nous de les envoyer. En plus de cela, il y a de ceux qui font des métiers. Parce que chaque enfant est étudié selon son profil. On appelle ça projet éducatif personnalisé. On suit chaque enfant individuellement pour voir selon son contexte s'il peut se socialiser facilement avec les études classiques ou est-ce qu'il faut l'envoyer au métier? Et évidemment, ceux qui n'ont pas un profil qui peuvent les aider à poursuivre les études après le centre, on leur demande de faire le métier et chacun librement choisit soit de faire la coupe et couture, soit la menuiserie, soit l'ajustage, ils font la soudure, soit la peinture. Donc, ils choisissent librement et nous, on les accompagne.
Quelles sont les difficultés, c'est toutes les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés?
Les difficultés, c'est surtout par rapport aux filles. Quand vous avez une fille de 17 ans dont la famille ne veut pas l'accepter, c'est tout un problème parce que c'est des filles qu'on... Avec les filles, on ne peut pas faire les foyers autonomes. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé une meilleure formule. Donc, c'est l'unique difficulté. Gloire à Dieu, il y a des familles d'accueil qui nous aident à accueillir ces enfants. Des anciens qui étaient partis, si ça n'a pas marché, nous retournent ici un peu transformés négativement. Donc, ils deviennent un peu paresseux. Et alors là, ça nous fait un peu de la peine.
Un message à la population?
Le message, c'est de venir nous soutenir. Soutenir les enfants, parce que ces enfants ont besoin de l'affection de tout le monde.
Père Jean-Robert, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal du soir en langue française sur Radio Okapi. À la présentation, Noëlla Luzitu Kabambi. La mise en onde est assurée par Dieudonné Nyangasa. Le tout supervisé par Pelé Kipela Mondo. Je vous laisse en compagnie de Christelle Fritimangwa pour la suite de Okapi Soir.